Ce matin, nous lirons dans le prophète Ésaïe deux passages de ce prophète, dans le chapitre 7 et dans le chapitre 11 du prophète Ésaïe. Chapitre 7, versets 13 à 15. Ésaïe dit alors : Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes ? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Et dans Ésaïe 11, au verset 1 à 6, alors un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la probité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton. La panthère se couchera avec le chevreau. Le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spique. Il ne se fera aucun mal. Il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 190. Les strophes 1, 2, 3 et 4, 190 dans le Louange et Prière.
Monte tes
prions le Seigneur pour nous disposer à écouter. Seigneur, permets que nous ouvrions grand notre cœur à ta parole. Fais de la place dans nos vies pour cette parole qui vient bousculer nos certitudes. Permets que nous puissions remettre à toi tout ce qui nous inquiète dans nos vies et que tu sois lumière sur nos chemins. Amen. En ce jour-là, la racine de Jessé se tiendra là comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront et son lieu de repos sera glorieux. En ce premier dimanche de l'Avent, nous entendons les paroles du prophète Ésaïe. Et c'est sur fond de guerre que se développe l'annonce de la venue du Messie chez Ésaïe. Jérusalem est aux prises avec les Assyriens. C'est de ce champ de bataille dévasté que sortira un rameau nouveau, un rejeton de la racine de Jessé. Jessé le Bethléemite, le père du petit David, est un homme dont on ne sait pratiquement rien, mais il va devenir celui qui porte la descendance qui sauvera Israël. Son nom est repris par le prophète Ésaïe comme l'ancêtre du roi donné par Dieu pour sauver son peuple. Il faut dire que David est le roi choisi par Dieu pour remplacer le roi que le peuple avait voulu à tout prix, Saül. En effet, au temps des juges, les tribus jalouses des grandes nations voisines exigèrent un roi aussi prestigieux que ceux de leurs voisins. Ils étaient jaloux, des Philistins par exemple. Alors ils demandèrent un roi pour régner sur toutes les tribus d'Israël. Auparavant, c'était Samuel, le grand prophète, qui faisait autorité en Israël, une autorité spirituelle. C'était donc ce pouvoir spirituel et la foi qui unissaient le peuple de Dieu malgré toutes les différences entre les tribus qui le composaient. Chaque tribu avait un juge et la justice était vue comme une plus importante que la force et que la force militaire. La Bible raconte l'accession au pouvoir du premier roi d'Israël, Saül, comme une leçon de Dieu donnée à son peuple. Dieu semble dire à son peuple, le peuple veut un roi fort, il va en avoir un. Et quel roi ? Saül est choisi contre toute attente. Et même si sa haute stature évoque l'orgueil du peuple qui veut avoir un roi qui en impose, cela ne suffira jamais à faire de lui un roi acceptable. Il va décevoir le peuple et il deviendra fou de jalousie. Lui qui était arrivé au pouvoir par la jalousie du peuple envers les peuples voisins. Et sa folie mettra au jour la folie du peuple qui voulut se faire aussi fort que Dieu, par manque de foi en ce Dieu qui leur donnait la justice grâce à ses prophètes. C'est là que Jessé entre en scène. Il est la racine de la royauté voulue par Dieu pour Israël. C'est parmi ses fils que le roi réellement voulu par Dieu pour son peuple sera choisi. Et cela, alors même que Saül est encore roi, comme si Dieu rejouait l'usurpation dont il avait été victime quand on voulut un roi à la place de ses prophètes. Dieu va lui-même usurper le pouvoir royal qu'il avait donné à Saül. Ainsi, la racine de Jessé va sortir d'un rameau qui va prendre le pouvoir sur le roi légitime. Dieu fait un coup d'État. La royauté toute humaine de Saül, figure des désirs de grandeur d'un peuple, va se trouver disqualifiée par le même Dieu qu'il avait installé au pouvoir. Et c'est le même prophète qui va clandestinement oindre le petit berger David chez son père Jessé. La généalogie des rois d'Israël n'a rien à voir avec une dynastie qu'on aurait pu attendre. Pas de fils pour prendre la suite de Saül, mais un usurpateur qui va se faire aimer de Saül tout d'abord, tout en lui prenant son trône. Ce n'est donc pas par l'engendrement que Dieu passe pour faire advenir son salut, mais par des choix inattendus, des événements inattendus et des vocations très improbables. Le règne de Dieu s'incarne en un nouveau David, dit Ésaïe. Il fait référence à toute cette histoire de la royauté pour Israël. La prophétie d'Ésaïe est une pensée de l'attente, attente d'un enfant, attente d'une nouvelle vie, attente d'un salut pour l'homme, attente d'un monde plus juste. C'est par un enfant providentiel que passe le salut promis. Et en lisant ces lignes, on pense à nos attentes qui semblent toujours les mêmes d'âge en âge. Les revendications pour plus d'égalité, plus de bonheur, plus de paix n'en finissent pas de résonner encore aujourd'hui. Et l'on attend à chaque élection, à chaque révolution, à chaque coup d'État sur la terre entière, un humain qui incarnerait les aspirations de tous les humains. Ésaïe attendait un nouveau David, qui, comme David lui-même, aurait sur lui le souffle de Dieu, ce qui revient à dire l'âme de Dieu, ce qui anime Dieu lui-même. En hébreu, c'est le souffle, ce qui fait respirer, l'onction sacrée. Quand en hébreu on parle d'âme, ce n'est pas d'une spiritualité dont on parle tout à fait comme dans le Nouveau Testament, ce n'est pas d'une idée ou d'un sentiment religieux, mais du souffle vital, de la respiration même de l'homme. Il faut que cet homme providentiel porte sur lui cette respiration humaine, cette respiration qui attend, qui aspire à un monde meilleur. Le Sauveur attendu par le prophète Ésaïe respire ce souffle de sagesse et d'intelligence, de conseil et de vaillance, de connaissance et de crainte de Dieu. Il est l'incarnation de Dieu sur la terre, de sa justice. C'est un sauveur qui ne se laisse pas abuser par les apparences et qui juge avec justice sans s'occuper des rumeurs. Il n'écoute pas les fake news. Et c'est avec sa bouche, comprenez sa parole, qu'il règne. Ce n'est pas un roi fort, mais un roi sage. Il n'est pas vulnérable comme Goliath, le grand gaillard qui tombe au premier jet de pierre, mais audacieux et intelligent comme le gringalet David. Un homme intègre qui fait advenir un monde où les bêtes les plus féroces peuvent séjourner avec les êtres les plus fragiles sans leur faire aucun mal. Voilà la vision du Sauveur que nous livre Ésaïe. Un monde sans prédation, sans agression, sans désir de posséder ce que l'autre possède. Une utopie, sans doute. Mais la force de cette utopie, c'est de montrer un autre chemin qui ne s'enracine pas dans la violence et la contrainte, ni dans le droit du sang et des dynasties, mais dans le symbole et le signe. Faire sens dans nos vies. Permettre à l'esprit de sagesse de Dieu de s'y déposer. Voilà le projet. C'est une foi dans la capacité à changer de paradigme. Quand Ésaïe parle de ce Dieu avec nous, de cet Emmanuel, il le présente comme un homme signe, comme une parole vivante. Et ce signe s'incarne dans un enfant, un petit homme, un être en devenir, un être fait d'espérance et de fragilité. Un être fait de puissance et de faiblesse, de croissance et en même temps d'inattendu. Un être dans le temps, mais qui porte en lui l'éternité comme une espérance. Et la caractéristique de cet enfant, c'est qu'il naît d'une jeune fille. Rien d'étonnant, me direz-vous, si ce n'est que la jeune fille dont parle Ésaïe dans le chapitre 7 est bien une jeune fille considérée avant son premier enfant. C'est-à-dire qu'elle n'a connu aucun homme. Dans l'évangile de Matthieu, on parle de cette jeune fille, cette vierge, et ce n'est pas tant le caractère extraordinaire qui vient contrecarrer les règles de la gynécologie qui ressort de cette précision sur la mère du Sauveur, que le caractère d'une nouveauté absolue qui en résulte. Le Sauveur vient comme un rejeton sur une terre vierge, comme une plante qui naîtrait au niveau d'un désert. Il est la nouveauté de Dieu. Il n'y a pas d'histoire, de tradition qui puisse rendre compte de cet événement. C'est un nouveau absolu. Dieu fait du nouveau. Ainsi, Jessé apparaît-il comme un nouveau personnage d'où naît une nouvelle royauté. C'est pour ça qu'il est important de dire qu'on ne sait rien de lui. La dynastie n'a pas de sens dans ce contexte. David n'est pas le descendant de Saül, c'est une royauté nouvelle, un changement radical, un règne d'un nouveau type. Dieu veut pour son peuple une conversion, un changement. Ainsi, le tronc de Jessé, le rameau dont nous parlent les Écritures, est-il un rameau qui n'a rien à voir avec la preuve par le sang ? Et c'est un rejeton, une nouvelle pousse inattendue, petite et fragile. Mais c'est de la racine du tronc de Jessé, de son enracinement dans la foi en Dieu, que se fait ce nouveau monde promis et que s'invente un nouveau règne là où Dieu prend la liberté d'inventer. Notre Sauveur Jésus-Christ naît comme cette nouveauté, sans se réclamer des liens du sang, mais uniquement de ceux de la justice de Dieu voulue pour l'homme. Sa généalogie s'invente dans le récit du salut voulu par Dieu pour l'homme. Dans la généalogie de Jésus, on trouve des femmes et des hommes sauvés par leur justice, sauvés par leur foi. Ruth, la Moabite, qui veut aider sa belle-mère dans une solidarité à laquelle rien ne l'obligeait. Rahab, la prostituée des murailles de Jéricho, qui va faire un acte de bravoure, de résistance, en cachant des espions au risque de sa vie, pour le salut du peuple. Et d'autres encore, comme Bose, choisis pour signifier que la lignée du Sauveur, c'est la lignée dans laquelle on entre par un choix de vie, par un esprit d'adoption, par un engagement de foi, ou une vocation à servir Dieu, pas par les liens du sang. Être de la famille des justes, voilà ce que nous demande Dieu en envoyant celui qui adopte dans sa lignée des justes. L'Emmanuel, annoncé par les prophètes, est homme de cette lignée. Partout, nous sentons que des changements doivent arriver dans notre monde et que de nouvelles manières de vivre et de faire advenir la justice sont en germe. Sans doute nos grands-parents auraient-ils dit cela déjà. À leur époque aussi, ils sentaient qu'il fallait qu'un nouveau monde arrive. Car l'humanité n'en finit pas d'attendre ce monde nouveau. Et c'est son attente même qui peut le faire advenir. Cette espérance. Sur les terres brûlées des guerres, sur les violences faites au nom d'une soi-disant légitimité divine, Dieu fait du nouveau. Il couvre les hommes de son souffle pour une vie pacifiée entre les hommes, entre les hommes et les animaux aussi, entre les hommes et toute la création. Voilà son salut. Par les prophètes, il nous fait connaître ce qui peut nous sauver. Dans notre société, ces idées de paix, de non-violence, de justice sociale émergent partout sans cesse. Des hommes et des femmes luttent pour cela. On voit fleurir des économies solidaires, des projets collaboratifs, des combats pour le respect des espèces animales, pour une nouvelle façon d'habiter la terre sans la dévaster. Et cela est toujours à recommencer sans cesse. Nous parlons beaucoup du climat, du gaspillage des ressources naturelles, de la terre qu'on surexploite, faisant beaucoup de mal aux hommes qui habitent cette terre. On parle aussi beaucoup du nombre d'humains qui s'accroît toujours sur la terre et de ses ressources qui diminuent de plus en plus vite. Et devant cette réalité, les traditionnels discours de la croissance, des rêves jaloux de conquête et de force qui ont eu leur grandeur en leur temps ne semblent plus adéquats. Pourtant, à 25 jours de la naissance du salut, des femmes et des hommes et des enfants dorment sur les trottoirs de nos villes, sur les trottoirs de la plus belle ville du monde. Des gens dorment sous la pluie. Sous les vitrines de Noël, des familles installent leurs matelas de fortune et se font une survie comme ils peuvent. Dehors, dans le froid et la pluie, beaucoup de progrès nous font penser que nous sommes forts. Les hommes sont mieux soignés, c'est vrai. Les techniques sont souvent maîtrisées. Les savoirs sont extraordinairement développés. Les gens vont au bout du monde et se rencontrent. On peut parler à un ami qui se trouve en Chine comme s'il était à côté de nous. L'homme a réussi à progresser plus qu'il ne l'imaginait. Sans doute, au temps des prophètes. Personne ne pensait que nous arriverions à faire tout cela. Et cette situation semble aujourd'hui dépasser l'homme, comme si, en courant à l'expansion de son règne, l'homme avait oublié qu'il est fragile et que le monde qu'il habite l'est aussi, qu'il est un homme et non un Dieu. En effet, la réussite est parfois violente. Là où elle règne, sont rejetés ceux qui échouent, qui peinent, qui se brisent. Paradoxe de nos pays riches, les écarts entre pauvres et riches se creusent parfois incroyablement. Contre la misère, étrangement, l'homme peine à trouver son remède, comme si cela ne faisait jamais partie du projet. Des pauvres, vous en aurez toujours, dira Jésus. Dans sa sagesse. Il dira cela à ses disciples, semblant sous-entendre, en voyant la femme au parfum qui répand sur lui une fortune, comme onction royale d'un nouveau David. Prenez exemple sur elle, semble-t-il dire. Elle a compris où est le sacré. Elle a compris qu'un homme est mortel, fragile. Comme le peuple de Dieu qui voulait un grand roi pour être aussi fort que les grandes nations voisines qu'il craignait et qu'il admirait. Les hommes ont voulu être forts pour être plus heureux. Comme si cette force allait leur éviter la fragilité, la précarité, les risques de chute. Pourtant, ils avaient un prophète qui les reliait au divin, qui devenait une sublime grandeur à leur fragilité. C'est l'humanité même que l'homme voudrait fuir en se prenant pour un dieu, et les signes de faiblesse lui apparaissent comme des épines dans la plus fabuleuse de ses réussites. Il est temps de repenser cette extraordinaire puissance de l'humanité. Il est temps de repenser au sacré de l'homme qui risque de se perdre sur nos chemins de puissance. Comment faire du règne de la force de l'homme un règne de la paix de Dieu ? Le Messie est venu et ils l'ont crucifié. Il reviendrait aujourd'hui, nous en ferions autant. L'homme a prouvé qu'il pouvait être puissant. Il faut maintenant qu'il essaie de devenir sage. C'est la même attente de génération en génération. L'homme a prouvé qu'il pouvait être puissant. Il l'a prouvé de siècle en siècle, toujours un peu plus. Et il a montré en même temps sa folie. S'appuyer sur la fragilité n'est pas spontané. C'est même un peu fou. Et pourtant, c'est quand la fragilité humaine est prise en compte que les lois sont plus justes, que le projet de notre société est moins terrible pour ceux qui restent sur le pavé. C'est un enfant dans sa fragilité qui nous est annoncé comme sauveur. Pas un homme fort, pas un géant. Un monde juste est un monde dans lequel un enfant peut marcher sans crainte pour sa vie, avec des gens autour pour prendre soin de lui. Habiter le monde sans se détruire et sans le détruire sera sans doute plus difficile que d'être simplement fort. Mais c'est l'appel des prophètes. Nous sommes dans ce temps d'attente au cours duquel nous pouvons penser notre vie en osant faire du nouveau. Notre attente n'est pas un fatalisme, mais une préparation à vivre une conversion radicale dans nos cœurs, pour abandonner un peu de notre puissance, ou plutôt l'orienter vers le bien de l'homme. Le salut que Dieu propose aux hommes avec la naissance de Jésus, c'est une nouvelle racine. La foi en un monde où notre connaissance des autres nous aide à nous soucier d'eux, non pas pour avoir puissance sur eux, mais pour prendre soin d'eux. Où nos connaissances des autres espèces nous aident à cohabiter avec elles plutôt qu'à les détruire et à les manipuler. Où notre intelligence nous aide à devenir sages plutôt qu'à fabriquer ce qui nous détruit. Du tronc de Jésus, un rameau sortira. C'est notre espérance et notre foi. Et un rejeton de ses racines sera fécond. Dieu nous le promet, encore et encore. Une vie nouvelle est possible. À nous de ceindre nos reins de justice pour construire cette vie promise d'âge en âge. Amen.